Donc, on va lire Jean 6, verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, ils furent rassasiés. Le mot en grec, c'est empiplémie. Empiplémie. Ça veut dire se rassasier, assouvir son désir, satisfaire. C'est le même verbe qu'on trouve dans Acte 14, verset 17. Il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. L'abondance, c'est empiplémie. Pour ceux qui étaient là l'été dernier ou l'été d'avant, chaque été c'est pareil. De temps en temps, ça nous arrive à faire des barbecues dans le jardin. Donc vous comprenez le sens de empiplémie. C'est quand on ne peut plus rien manger. On est plein, on est rempli à ras-bord. Et on comprend que c'est cette idée qui est transmise dans Jean 6, 12, parce que le verset précédent, ils avaient mangé autant qu'ils en voulurent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que Jésus est plus que capable de nous satisfaire, de nous rassasier, d'assouvir nos désirs complètement. On a chanté tout à l'heure El Shaddai, c'est le nom de Dieu qui est souvent utilisé dans les contextes de bénédiction, de fécondité, de provision divine. C'est le nom qui souligne la nature abondante de notre Dieu, la nature généreuse de notre Dieu, qui est capable de pourvoir à tous les besoins de son peuple. Souvent, il est traduit dans la plupart des Bibles, par Dieu Tout-Puissant. Mais une autre traduction possible, c'est le Dieu Tout-Suffisant.
Oui. Tout-Suffisant.
Et le tout, c'est sûr, sur-suffisant. Il est plus que suffisant.
J'avais déjà entendu ça.
Donc Jean chapitre 6, verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Jésus, Fils éternel du Dieu omniscient, de Dieu qui sait tout. Il voyait la foule. Il sait tout. Il sait exactement combien de personnes il y a dans la foule. Il prend les 5 pains et les 2 poissons. Il les bénit. Il les distribue et s'est trompé sur la quantité. Est-ce qu'il avait surestimé l'appétit de tout le monde? Ou est-ce qu'il s'était trompé sur la quantité de personnes? Je lis dans le psaume 139, les 4 premiers versets. J'y vois un Dieu qui me connaît mieux que je me connais moi-même. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dieu nous connaît. Il n'est pas possible que Jésus ait surestimé l'appétit de quiconque. C'est pas possible. Et Jésus ne s'est pas trompé en estimant le nombre de personnes ce jour-là. Ce qui s'est passé, ça prouve ce qu'on lit dans Éphésiens chapitre 3 verset 20. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. ce qui s'est passé prouve que Dieu peut, et j'ai inventé un verbe, nous surcombler de bénédictions. Combler, c'est déjà plus qu'assez, mais surcombler, c'est une deuxième couche, quoi.
Ouais. J'avais déjà entendu un prêche sur il y a l'instant, en fait. On peut prêcher dessus, c'est un problème.
Sur
les restants. Ouais, des poissons, des pains, en fait, avec le...
Même des petits pains.
Ils
ont fait avec leur reste. Hein?
Ils ont rempli les paniers, 12 paniers.
Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les paniers?
Mais pour nous montrer à quel point Dieu est capable de nous surcombler de bénédictions, le psaume 23 que tout le monde connaît.
Oui, l'Éternel est mon berger.
Voilà. Au verset 5, ce n'est pas écrit « Ma coupe est pleine ».
Ma coupe déborde.
Elle déborde. Le fait qu'il y avait des morceaux qui restaient prouve que Dieu est capable de nous bénir au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais, comme dit Thierry si bien, il y a autre chose qui se cache dans cette histoire. Jean 6, 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Si vous venez chez nous pour manger, il y a de fortes chances qu'à la fin du repas, il reste de la nourriture. Elaine ne sait pas faire de petites portions.
Oui, c'est ce que je pensais. Les chats, les chèvres, les moutons, les poules, je pense à ça, justement.
Elaine ne sait pas faire de petites portions, elle a hérité ça de son père céleste. Les morceaux qui restent chez nous sont souvent jetés.
Souvent. Ah bon?
Désolé. Non, on nourrit les oiseaux dans le jardin.
Ah.
Et les rats, et...
Ça devient le sucre pour le lendemain.
Ce sont souvent les morceaux dont personne ne veut. Il y a des personnes dans notre monde qui se sentent comme ça. Laissées de côté, rejetées, inutiles, frustrées, en trop. Mais Jésus ne les jette pas. Il ne les laisse pas ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Jésus, c'est celui qui laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Jésus est celui qui se réjouit quand la drachme perdue est retrouvée. Jésus est celui qui dit dans Luc 15, 32 qu'il faut s'égayer et se réjouir quand le fils perdu est retrouvé. Ensuite, Jean 6, 13, ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Le donc, moi je pourrais prêcher une journée entière sur les donc dans la Bible. Le donc, c'est, ça nous rappelle l'instruction de Jésus dans le verset précédent, au verset 12, ramasser les morceaux qui restent, il y a ses disciples, afin que rien ne se perde. Donc, ils les ramassèrent. Jésus leur dit de ramasser les morceaux, et puis au verset 13, ils les ramassèrent donc. Et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Les disciples ont vu Dieu faire ce qui est écrit dans Éphésiens 3, 20. Ils ont vu Dieu faire infiniment au-delà de tout ce qu'ils ont demandé, tout ce qu'ils demandaient ou pensaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à Jésus. Est-il possible que la raison pour laquelle nous ne voyons que trop peu l'infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, c'est parce que nous n'obéissons pas assez à ce que nous dit Jésus. Notre frustration ne vient-elle pas de là? Nous n'obéissons pas complètement à tout ce que Jésus nous dit. Les disciples ont vu Jésus faire des miracles et les a abondamment bénis parce qu'ils ont obéi à ce qu'il leur a dit. Si je résume ce qui s'est passé, les disciples ont obéi quand Jésus leur a dit de faire asseoir la foule. Ensuite, Jésus leur a donné la nourriture en disant « distribuez-la ». Et ils l'ont distribuée. Ensuite, Jésus leur a dit de ramasser les morceaux qui restent. Et ils les ont ramassés. Et ils ont chacun reçu un panier rempli. C'est en s'impliquant dans le ministère de Jésus qu'ils ont vu la foule manger à leur faim. Ils ont vu la foule bénéficier des bénédictions de Dieu, mais c'est en s'impliquant dans le ministère de Jésus qu'ils ont été bénis eux-mêmes. Ils étaient bénis parce qu'ils cherchaient non pas à recevoir la bénédiction, mais à apporter une bénédiction. Ce n'est pas en venant à l'église pour écouter et recevoir que vous serez bénis. C'est en participant activement, en bénissant les autres, en utilisant les dons que Dieu vous a donnés que vous serez bénis.
Ouais. Hier, je suis allé à la poste, il y avait un monsieur. Je sentais qu'il fallait que j'aille le poste. J'ai dû lui donner 9 euros. Enfin, il y avait 3 ou 4 euros, je crois. J'avais 5 euros là. Je dis, j'ai pris les 5 euros, j'ai vu son visage, on m'a regardé. Il était rempli de joie, en fait. Il s'est acheté son paquet de cigarettes, peu importe. Enfin, mais je voyais bien qu'il n'était pas, pas pour acheter de l'alcool. En fait. Mais c'était il m'a regardé, il était. Oh, et ça n'a jamais dû lui arriver, ou très peu. Mais j'ai vu sa joie sur son. Sur sa tête et ça m'a mis en joie.
C'est une récompense.
Tu l'as pas jugé surtout quand il t'a dit qu'il allait acheter des cigarettes?
Non, pas du tout.
Tu aurais pu dire, oh bon non.
Non, pas du tout.
Rendez-moi les 5 euros.
Ouais, c'est ça.
Non, absolument pas. Il était en train de compter ses petites pièces. Là, il avait des petites pièces. Et 1, 2, 3. Moi, je dis, allez, tiens. Prends les 5 euros et puis compte plus, c'est fini. Ça m'a touché à peine. Mais ce visage, je m'en souviens encore, il m'a regardé. T'es content, t'es heureux, t'es. Et puis moi aussi.
Si vous cherchez à être béni passivement, vous serez frustré. Si vous cherchez à obéir les instructions de Jésus, comme les disciples ici, non seulement vous verrez les autres recevoir les bénédictions, et comme Thierry dit, ça réchauffe le cœur, mais vous en recevrez vous-même. Si votre attitude est de vous asseoir en attendant d'être béni, vous serez frustré. Si votre attitude est d'être activement impliqué dans le ministère de Jésus pour bénir les autres, vous serez béni. Jean 6, 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ces gens, là ce n'est pas les disciples, ce sont les 5000 hommes et femmes et enfants qui ont mangé à leur faim, qui étaient rassasiés. Ils ont mangé autant qu'ils voulurent. Et le prophète dont il parle, c'est celui qui est prédit par Moïse dans Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est une prophétie qui a été donnée quand les Israélites étaient dans le désert, après être sortis de l'Égypte, à l'époque où ils recevaient chaque jour la manne. La multiplication des cinq pains leur a fait penser à la manne fournie par le Dieu tout suffisant chaque jour. La multiplication des pains a servi pour montrer que Jésus était celui dont ils attendaient. La foule sur les flancs du plateau de Golan, la foule ce jour-là ont fait la connexion entre ce qu'ils voyaient autour d'eux, la multiplication des pains, et la prophétie de Moïse sur le Messie à venir. Quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, dans le monde, est-ce que vous faites la connexion avec ce qui est marqué dans la Bible? Est-ce que vous avez entendu parler du projet du président Trump pour démanteler la bande de Gaza? Ils en parlent dans certains milieux. Il a proposé un plan visant à prendre le contrôle de la bande de Gaza, à relocaliser de force les 2 millions d'habitants palestiniens dans d'autres pays, à passer avec les bulldozers, à tout raser, et à reconstruire le territoire pour en faire la Riviera du Moyen-Orient. J'ai lu plusieurs articles à propos de ce projet. Très peu voyaient que c'était une bonne idée. Je vais vous lire un article qui parle de ce projet. C'est un article qu'on trouve dans Sophonie chapitre 2, versets 4 à 7. Car Gaza sera délaissée. Ascalon sera réduite en désert. Asdod sera chassée en plein midi. Ekron sera déracinée. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins ou Palestiniens. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront, ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs.
Sauf que personne n'a vu ni Gaza, ni l'Égypte, ni aucun.
Ce qui se passe dans aux infos, c'est écrit dans la Bible.
Oui, c'est sûr.
Quand je regarde ce qui se passe dans le monde, et je ne veux pas dire sur BFM, que j'entends aux infos, ça c'est pas la réalité. Je parle de ce qui se passe réellement. Tout ce que Trump a entrepris depuis 2 semaines, je suis pas surpris, je suis pas choqué. Je suis un peu étonné, j'avoue, à la vitesse à laquelle les choses bougent. Mais tout est prédit dans la Bible. Je suis un peu comme la foule ce jour-là sur les flancs du plateau de Golan. Je vois ce qui se passe et je fais le rapprochement avec ce que j'ai lu dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 14, Jésus nous parle de ce qui va arriver à la fin du temps. Verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Jésus savait qu'il y aurait des personnes qui essayent de nous séduire, de nous décevoir, de nous tromper. regarder une émission sur BFM et puis regarder ce que disent les gens qui étaient présents. Bref. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Gaza et Israël, Soudan, Ukraine, Éthiopie, Tchad, Cameroun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Syrie, Myanmar, Afghanistan, les Philippines, Yémen, la République centrafricaine. Je pourrais continuer longtemps. Ce ne sont que quelques-uns des pays touchés par les guerres ce week-end. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y a plus de 1,9 million de personnes touchées par la famine en ce moment. Savez-vous combien de tremblements de terre il y a eu de plus de 1,5 sur l'échelle de Richter depuis 2 semaines? Une vingtaine? Une trentaine? 1600. Plus de 1600 en 2 semaines. Versets 10 à 14. Alors aussi plusieurs succomberont. Il y a des traductions qui traduisent ce verbe succomber par seront offensés. C'est ce qui est marqué dans le grec. Vous n'avez pas l'impression que tout le monde est offensé partout de nos jours? Jésus a dit lui-même que beaucoup seront offensés juste avant la fin du monde. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous voyez pourquoi je fais le lien entre ce qui se passe dans le monde et ce que je lis dans la Bible?
Ça se ressent.
Trump est très panique. Il regarde les choses et il panique.
Oui.
Il me dit, mais regarde ce qui se passe, mais regarde ce qui se passe. Et je lui dis, mais tout va bien, puisque tout est prévu.
Tout
tu devrais être rassuré de ce que tu vois, puisque ça correspond à ce qui est écrit.
Oui. Des choses qui ont été écrites il y a 2000 ans.
Mais c'est prévu, donc calme-toi, tout va bien. Et il me dit, mais comment t'arrives à être aussi calme? Il me dit, ça te choque pas, ça te trouble pas, ça te... J'ai dit non, parce que tout est écrit, donc je suis rassurée de voir que tout se passe comme c'est écrit. Ouais.
Moi j'ai dit, je ne sais pas ce que l'avenir tient, mais je sais qui tient l'avenir.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas de quoi se trouver.
Si vous ne voyez pas un lien entre ce qui se passe actuellement dans le monde et ce qu'on lit dans la Bible, peut-être que vous avez été séduit, comme Jésus a averti. Ouais. Mais bon, revenons à l'évangile de Jean. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après que les gens ont dit que Jésus était le prophète prédit par Moïse? Lisons le verset 15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le premier mot « et », c'est le même mot que le « donc » dans le verset 13. Ensuite, « sachant », c'est le mot « ginosko ». Il y a deux mots grecs qui peuvent se traduire « savoir » ou « connaître ».« Ginosko » et « oida ». Deuxième, « oida » s'applique quand il s'agit d'un savoir qui est appris ou acquis. Le premier, ginosko, c'est le savoir intuitif. Intuitif. Jésus savait. C'est pas qu'on lui a dit. Jésus savait. C'est plus une parole de connaissance qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Alors moi, je vois plusieurs problèmes avec cette phrase. Pour le faire roi. Moi, je ne peux pas faire de Jésus ce que je veux. Moi, je suis pas assez haut placé pour commander Dieu. Je ne peux rien exiger de lui.
Mais de toute façon, je pense que même là, à ce moment-là, il savait très bien ce qui allait lui arriver.
Oui.
Donc c'est pour ça, peut-être qu'il se retirera de nouveau sur la montagne, parce qu'il a besoin d'aller. Parce qu'après la suite, c'est quand il voit Abraham et puis oui, je crois. Quand le Pierre et tout ça, ils sont tout blancs.
Mais au moins, Jésus se retira. Pourquoi personne ne la suit?
On reviendra.
Ok.
Pour l'instant.
Pourquoi c'était. Il a fait.
La foule. Il a
disparu.
La foule a vu que c'était le Messie.
Ouais.
C'est bien, en fait.
Oui.
La foule voulait en faire un roi. C'est bien.
Oui.
C'est pas le plan.
Mais
non.
Il faut attendre le timing de
pour,
Dieu.
Pour le faire roi, on a chanté tout à l'heure, devant ton trône, je m'inclinerai, je suis à toi, je te servirai. Ce n'est pas dans notre sens.
Tu me sens. Il y a tellement qui me pensent.
Je suis son serviteur, il n'est pas le mien. Je ne peux pas faire de lui quoi que ce soit. Deuxièmement, il voulait un roi politique. Un roi qui les guiderait. Qui pourvoirait à leurs besoins matériels. Qui régnerait sur leur pays. Qui repousserait les Romains. Beaucoup de nos jours veulent se servir de Jésus pour subvenir à leurs besoins, voire leurs désirs matériels. Ou à des fins politiques. Et puis, Jésus, il est déjà roi. Matthieu, chapitre 2, verset 2. Les rois mages sont allés à Jérusalem et ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Jésus était déjà roi. Il est né roi. Donc, quelle était la réaction de Jésus? Il s'est retiré. Jean 6, 15. Il s'est retiré. Alors, ce que voulaient les gens semblait admirable. Il l'avait reconnu comme Messie, prédit par Moïse. Il voulait qu'il soit le roi. Je vais citer Bernard de Clairvaux, c'est pas tous les jours que je le cite. Il a dit, l'enfer est plein de bonne volonté et désir.
L'enfer est pavé de bonnes intentions, je connaissais. Mais c'est pareil.
Oui. Mais la citation à Bernard de Clairvaux, c'est l'enfer est plein de bonne volonté et désir. Jésus savait le fond de leurs intentions. Il savait qu'ils avaient mal compris le royaume dont il était roi. Jésus connaissait leur motivation. Jésus savait pourquoi les gens venaient vers lui. Et le seul moyen pour nous d'être protégés contre les mauvaises intentions des autres, c'est de rester si près de Jésus, d'être en communication permanente avec son Esprit Saint pour savoir, dans le sens ginosko et pas oïda, pour recevoir une parole de connaissance pour nous avertir quand il y a envie de sauver. Et que faut-il faire si les gens viennent vers nous avec de mauvaises intentions? Il faut faire comme Jésus, il faut se retirer. En Matthieu, chapitre 14, verset 23, ça parle de... même événement, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Quel exemple! Quel exemple! Il s'est retiré pour prier à l'écart. La prière, ça refocalise notre attention sur Dieu au lieu de sur nous-mêmes. La prière renforce notre relation avec Dieu. Jésus a vu que c'était un moment favorable pour être seul avec son Père. Pourquoi ? Pour rester focalisé sur la raison pour laquelle il est venu sur terre. Ce n'était pas pour être roi dans le sens que voulait la foule. C'était pour mourir. C'était pour ouvrir la porte de son royaume. Pas de créer un royaume physique, matériel, et chasser les Romains. Il ne fallait pas succomber à l'excitation de la foule. C'est tellement facile de se laisser emporter par la foule. Mais la réponse de Jésus, c'était de se retirer seul au prix. La foule est volatile. On verra dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Quand Jésus entre à Jérusalem, la foule crie « Hosanna ». Quelques jours plus tard, il crie « Crucifié ». N'écoutez pas la foule. Restez en communication avec le Père, avec le Saint-Esprit, surtout dans les moments de popularité et de réussite. Jésus n'a pas suivi les bonnes intentions de la foule, il s'est retiré seul pour prier. De temps en temps, on me dit, le message que tu as prêché, c'était l'un des meilleurs que j'ai jamais entendu. Ou alors, la louange de ce matin, c'était super, j'avais l'impression d'être monté au ciel. Et il faut que je fasse comme Jésus, que je me retire seul pour prier. C'est la seule façon de rester dans l'humilité, de rester focalisé sur le ministère que Dieu m'a donné. Hélène, elle m'aide beaucoup là-dedans. Je rentre de l'église, on m'a dit que j'étais le meilleur pasteur de tous les temps. Wow.
Bah oui, hein.
Fais les vaisselles.
Et là, il m'a dit, tu sais que tu as un bureau à ranger ? Tu sais que tu as des vêtements à ranger ?
Ah, ça retourne. Ouais.
Elle s'assure que je reste dans la réalité, que je reste les pieds sur terre. Donc, comment gérer la frustration ? On a vu que les bénédictions du Seigneur sont tellement abondantes qu'il y a des morceaux qui restent. Peut-être que vous vous sentez comme un morceau qui reste, laissé à l'abandon par les autres, laissé derrière en morceaux. Sachez que Jésus s'occupe de vous. Il a commandé à ses disciples d'aller ramasser les morceaux. Et que ces morceaux sont devenus une bénédiction pour eux. Jésus est venu chercher ceux qui étaient à l'écart, perdus, délaissés. Il vous aime. Il aime chaque partie de vous, corps, âme et esprit. Il vous ramasse pour que rien ne soit perdu. On a vu comment les gens voulaient venir à Jésus pour le faire roi, mais que Jésus savait pourquoi il venait. Savez-vous pourquoi les gens s'approchent de vous ? Vous restez en communication permanente avec Dieu pour recevoir des paroles de connaissance, pour ne pas tomber dans la tentation de suivre la foule. Il faut cultiver cette relation avec Dieu en passant du temps avec lui, en lisant la Bible pour connaître sa volonté à chaque instant. En lisant la Bible, vous serez en mesure de reconnaître ce qui se passe dans le monde, de reconnaître les signes dans le monde dans lequel nous vivons, et vous verrez qu'on approche de la fin. On a vu que quand nous sommes frustrés, il faut suivre l'exemple de Jésus, il faut se retirer à l'écart, seul avec lui, afin de rester focalisé sur ses instructions, afin d'apprendre la mission que Dieu vous a donnée. De rester fidèle à cette mission. Je sais, c'est pas toujours facile de trouver un moment seul dans notre société. Il y a les enfants à gérer, il y a le boulot, il y a le ménage, il y a les autres. C'est tellement important. Moi, souvent, je prie dans ma voiture sur le chemin du travail. De temps en temps, ça, je me dis, heureusement que j'ai pas de... Il y a des caméras maintenant qui filment à l'intérieur et à l'extérieur. Heureusement que je n'en ai pas un. On me prendrait pour un fou. Mais il faut saisir les moments de solitude pour passer du temps avec Dieu. Il faut trouver le temps de lire sa Bible. Passer du temps dans l'adoration. D'apprécier les moments seuls avec Dieu.